Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La Turquie suspend son offensive militaire en Syrie. Une trêve arrachée par le vice-président américain Mike Pence après sa rencontre avec le président turc Erdogan aujourd'hui à Ankara. Dossier dans ce journal avec Anne Andloer en Turquie et Grégory Phillips à Washington. Les dirigeants européens se félicitent de l'accord sur le Brexit négocié la nuit dernière à Bruxelles. Mais le texte doit encore être adopté par le Parlement britannique où le Premier ministre Boris Johnson n'a plus la majorité. Nous ferons le point avec Marie-Pierre Véraud. Quatrième journée de manifestations et de violences en Catalogne. Des dizaines de milliers d'indépendantistes rejettent la condamnation de leurs dirigeants par la justice espagnole. Nous en parlerons avec l'invité de cette édition, l'universitaire Barbara Loyer, spécialiste de l'Espagne contemporaine. C'est un tournant dans l'offensive turque en Syrie. Ankara confirme ce soir la suspension de ses opérations militaires contre les Kurdes. Une suspension de 5 jours annoncée par le vice-président américain Mike Pence après sa rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Anne Andloer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct d'Istanbul. Anne, en fait, la Turquie donne un délai aux Kurdes pour évacuer la zone frontalière convoitée par Erdogan.
Oui, c'est un cessez-le-feu provisoire et conditionnel. Ankara va suspendre en fait son opération pendant exactement 120 heures pour laisser le temps aux forces kurdes de se retirer sur 20 miles, soit 32 kilomètres, au-delà de la frontière turque. 32 kilomètres, c'est précisément la profondeur de la zone de sécurité réclamée depuis des mois par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Affirmant que les forces kurdes avaient déjà commencé à quitter la région, le vice-président américain Mike Pence a précisé que l'accord avec la Turquie prévoyait aussi que cette dernière ne mène aucune action militaire contre Kobané, la ville symbole du nord syrien qui avait signé en 2014 le partenariat de Washington avec les forces kurdes lorsque ces dernières l'avaient arrachée au groupe État islamique. La première réaction côté turc est venue de son chef de la diplomatie. « Nous avons obtenu ce que nous voulions », s'est félicité Mevlüt Çavuşoğlu, assurant que la zone de sécurité serait sous le contrôle des forces armées turques et que les combattants kurdes abandonneraient leurs armes lourdes selon l'accord avec Washington. Mais le ministre turc est aussi resté prudent. « Nous suspendons l'opération, nous ne l'arrêtons pas », a-t-il insisté, expliquant qu'Ankara ne mettrait fin à son offensive que lorsque tous les combattants kurdes auraient évacué la zone.
Anne Andloer, correspondante de RFI en Turquie en direct d'Istanbul, merci. Cette offensive turque en Syrie avait débuté le 9 octobre, 3 jours après la décision de Donald Trump de retirer les troupes américaines dans le secteur. Mais face au tollé aux États-Unis, le président américain avait semblé faire machine arrière en menaçant d'anéantir l'économie turque. Des menaces qu'Erdogan avait balayées jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Nous sommes en direct de Washington avec Grégory Phillips, bonsoir.
Bonsoir.
Grégory, Donald Trump se félicite ce soir de la suspension de l'offensive turque.
Oui, c'est vrai, le président américain parle d'un grand jour pour les Turcs, pour les Kurdes, pour la civilisation, et il jure qu'avec ce cessez-le-feu temporaire, eh bien, on a sans doute, dit-il, évité des millions de morts. Il félicite son vice-président Mike Pence et son chef de la diplomatie Mike Pompeo, qui ce matin ont donc négocié pendant plus de 4 heures avec le président Erdogan. Qu'ont-ils obtenu ? Anne Andloer vient de vous le dire, un arrêt des hostilités pendant 120 heures, pendant 5 jours, le temps de permettre aux miliciens kurdes de se retirer de cette zone frontalière. Dans le même temps, l'armée turque promet une pause de son opération militaire, une pause. Les États-Unis, qui ont encore des troupes dans la région, disent qu'elles vont garantir le retrait des forces kurdes, et la menace émise par Washington de sanctions contre l'économie turque est donc pour l'instant levée. Le Congrès américain, qui avait dénoncé l'abandon en rase campagne des alliés kurdes, parle ce soir de progrès significatifs par la voix du sénateur républicain Lindsey Graham, mais l'élu de Caroline du Nord, qui ces derniers jours, on l'a vu, a violemment critiqué la politique étrangère de Trump dans cette région, dit aussi qu'il est temps de trouver une solution durable pour venir en aide aux Kurdes et pour éviter surtout la résurgence de Daesh dans la région.
Grégory Phillips en direct de Washington, merci. J'ajoute cette dernière information. Les forces kurdes se disent prêtes ce soir à respecter la trêve de 5 jours négociée à Ankara. C'est en tout cas ce qu'affirme un commandant des forces démocratiques syriennes. Les 27 pays membres de l'Union européenne approuvent ce soir l'accord sur le Brexit conclu avec les Britanniques. Le texte a été âprement négocié la nuit dernière à Bruxelles, sous la houlette du négociateur européen Michel Barnier. Il prépare la sortie ordonnée du Royaume-Uni tout en jetant les bases d'une nouvelle relation entre Londres et les Européens. Bruxelles, où vient de débuter le sommet européen, on retrouve sur place Marie-Pierre Véraud.
Chacun se félicite ici d'un accord équilibré qui préserve les intérêts des deux parties, un accord qui apporte de la sécurité, précise Michel Barnier, là où le Brexit n'était qu'incertitude. Sur la question la plus épineuse, celle de l'Irlande, les négociateurs ont fait preuve de créativité. L'île sur laquelle il n'y aura pas de frontières, c'est essentiel pour préserver la paix, demeurera au sein de l'Union douanière britannique, tout en conservant les réglementations en vigueur en Europe, notamment en matière sanitaire ou environnementale, un statut hybride donc. La Grande-Bretagne s'engage par ailleurs à respecter un minimum de règles afin de ne pas faire de dumping social, environnemental ou fiscal aux portes de l'Union. Les droits des citoyens seront préservés et Londres réglera sa part de budget. C'était essentiel pour les Européens, de même qu'une période de transition qui va s'appliquer au moins jusqu'à 2020 pour s'assurer d'une sortie en douceur. À présent, les Européens font porter la pression sur le Parlement britannique. Il n'y aura pas de prolongation, a prévenu Jean-Claude Juncker. Pas de raison de reporter davantage le Brexit. L'accord doit donc passer l'étape des communes.
À Marie-Pierre Vérot, merci. Le Parlement britannique qui doit effectivement se prononcer samedi sur l'accord de Brexit lors d'une séance extraordinaire à Westminster. Devant la presse à Bruxelles, Boris Johnson s'est dit confiant quant au vote positif des députés. Problème, le Premier ministre n'a plus la majorité. Il peut compter sur 288 élus alors qu'il lui faut 320 voix. Les travaillistes de Jeremy Corbyn et les unionistes nord-irlandais du DUP ont déjà fait savoir qu'ils voteraient contre l'accord. En Espagne, des dizaines de milliers d'indépendantistes continuent à manifester dans toute la Catalogne, 4 jours après la condamnation de 9 de leurs dirigeants par le tribunal suprême espagnol. Des rassemblements souvent violents, comme à Barcelone, où 25 000 manifestants ont harcelé les forces de l'ordre aujourd'hui. Selon le ministre espagnol de l'Intérieur, 194 policiers ont été blessés depuis lundi et 97 personnes ont été arrêtées. Demain, des dizaines de milliers d'indépendantistes venus de toute la Catalogne doivent se retrouver à Barcelone pour une nouvelle manifestation massive. Invitée de ce journal, Barbara Loyer, professeure à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Bonsoir.
Bonsoir.
Barbara Loyer, cette explosion de violence en Catalogne était-elle prévisible ?
Oui, elle était prévue par beaucoup de gens, elle était crainte et on ne sait pas maintenant jusqu'où elle va aller. Mais oui, tout le monde l'attendait. Il y a même quelques semaines, la garde civile a arrêté un groupe de personnes qui avaient stocké des explosifs en vue du jour de la sentence et de la réaction que ces personnes voulaient apporter à la sentence. Donc oui, on s'attendait à tout ça.
Qui sont derrière ces débordements aujourd'hui ?
Ben, au moment où il y a eu le référendum, il y avait des comités de défense du référendum qui se sont transformés en comités de défense de la République et qui donc s'organisent de mieux en mieux depuis 2 ans et qui sont sur le terrain en permanence pour accrocher partout, par exemple, des rubans jaunes pour défendre la cause des personnes qui étaient jugées ou pour occuper l'espace public avec des drapeaux, pour manifester devant le Parlement autonome. Donc il y a une sorte de travail d'entretien, de mobilisation permanente. Voilà, ce sont les personnes séparatistes qui sont dans un processus de mobilisation permanente pour alors ne pas justement risquer d'être démobilisés au moment où ça serait important pour eux.
Jusqu'où ces comités sont-ils prêts à aller pour obtenir satisfaction ?
Ben, si vous voulez, c'est un petit peu difficile à dire parce que obtenir satisfaction, ça dépend pas d'eux. Ça voudrait dire obtenir l'indépendance, mais l'indépendance, ça n'est plus trop possible. Ils ont essayé d'avoir l'indépendance malgré le fait qu'ils étaient minoritaires en voix, les nationalistes. Et là, maintenant, il y a eu une réaction de l'État espagnol qui a mis un coup de frein à ce processus. Et du coup, tout le camp, on va dire, séparatiste, il est partagé en 3 parties. Et ces 3 parties ne sont pas tous d'accord sur la stratégie à suivre et à quel terme, on va dire, ils envisagent leur avenir ou l'avenir de leur mouvement. Donc tout le monde est en train de départager, on va dire, les idées assez contradictoires qui circulent à l'intérieur de ce mouvement-là. Ce qui est clair, c'est que la mobilisation là, qui a eu lieu dans les rues, a finalement été désavouée par une partie des nationalistes qui ne veulent pas diffuser l'image d'un mouvement nationaliste et séparatiste violent. Et jusqu'ici, ils ont toujours dit que c'était la police espagnole qui était violente et eux, ils étaient seulement pacifistes et ils étaient seulement des citoyens qui voulaient voter. Donc ça casse le récit de la révolution des sourires, comme il l'appelait, d'autant plus que le gouvernement autonome a quand même envoyé la police autonome pour dégager l'aéroport notamment, et que cette police autonome est arrivée casquée, vêtue de noir, exactement comme la garde civile le jour du référendum. Alors que le jour du référendum, la police autonome, elle était dans son beau costume rouge. Ils étaient plutôt bienveillants, on va dire, pour avec les électeurs ou les gens qui voulaient aller voter. Et donc, il y avait d'un côté la garde civile tout en robocop, tout noir et très effrayant, puis de l'autre côté, les gentils policiers autonomes. Et là, d'un coup, il y a une désillusion de la part de ces mouvements de défense de la République parce qu'ils ont perdu le soutien institutionnel. Et donc, ce qu'a dit le président de la Généralitat, qui est quand même un séparatiste absolument convaincu, c'est que, en fait, ces gens étaient des infiltrés. Donc, c'était l'insulte suprême.
Justement, concernant l'aéroport de Barcelone, le blocage de l'aéroport a été mené par une organisation Tsunami démocratique. Qu'est-ce que l'on peut dire de cette organisation qui est nouvelle dans le paysage catalan ?
Ce n'est pas une organisation nouvelle, c'est une dénomination nouvelle de la même chose. Et c'est révélateur d'une rhétorique régulière et récurrente dans le mouvement nationaliste qui vont associer en fait l'idée du mouvement impossible à arrêter, comme le tsunami, c'est un peu paradoxal, un tsunami ça détruit tout, et puis d'y associer le mot démocratique qui semblerait protéger tout le mouvement d'une quelconque nature non démocratique, quoi. Donc tsunami et démocratique, ça associe deux termes qui sont a priori complètement contradictoires. On peut pas construire une démocratie en faisant table rase de tout comme un tsunami. Et en fait, cette rhétorique, si vous voulez, sous forme de slogan, elle évolue de manière à remobiliser les troupes derrière une autre forme, une autre façon de se décrire pour se donner aussi du courage, puisque là, ils ont quand même perdu, en tout cas, la première manche. Ils ont raté le coup de force qui aurait permis, même en étant minoritaire en nombre de voix, d'imposer la révolution, la république, l'abolition de la monarchie sur ce territoire, l'imposition d'une autre nationalité à tous les Espagnols et tous les Catalans qui n'ont pas l'intention d'être autre chose qu'Espagnols. Donc ça a été la volonté de ce mouvement et ils n'ont pas réussi.
Barbara Loyer, merci d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir. En France, le Sénat, majoritairement à droite, a infligé aujourd'hui un revers à la maire de Paris, la socialiste Anne Hidalgo, par 228 voix contre 72. Les sénateurs ont rejeté un amendement autorisant la création d'une police municipale dans la capitale. Un échec donc pour Anne Hidalgo à 5 mois des élections municipales, alors que la délinquance a fortement augmenté à Paris ces derniers mois, selon les derniers chiffres de la préfecture de police. Pierre Neveu.
C'est en début d'année qu'Anne Hidalgo a décidé de réformer sa police municipale, ou plutôt de s'adjuger en la matière les pleins pouvoirs comme dans les autres municipalités. Car il faut le préciser, Paris est la seule ville de France où les pouvoirs de police sont détenus par un préfet de police. Alors pour en finir avec cette exception, Anne Hidalgo a profité de l'examen du projet de loi Engagement et proximité pour demander un transfert de compétences et permettre ainsi à ses 3200 agents de se doter d'un cadre juridique pour sanctionner les incivilités de voirie, les nuisances nocturnes et ainsi veiller à la tranquillité publique. Mais cette police au pouvoir limité s'est heurtée au vote massif des sénateurs, sanction que ne comprend pas Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice socialiste de Paris.
Quelques sénateurs de droite se sont abstenus, parisiens d'ailleurs, et comme le gouvernement s'est exprimé de manière défavorable, et le rapporteur également, il a été décidé de voter contre. Honnêtement, vous allez peut-être me trouver comme manquant d'imagination, je ne comprends pas. Je ne vois pas de gain politique et donc je trouve ça, excusez-moi, c'est bête.
Ce vote sonne donc comme une victoire pour les nombreux candidats à la mairie de Paris, car il y a déjà quelques mois, ils dénonçaient une demi-mesure de fin de mandat, un revirement tactique et politicien.
Pierre Neveu, merci. Du côté de la droite et de la majorité macroniste, on explique qu'il n'y avait aucune raison de voter dans la précipitation cet amendement qui poserait des problèmes juridiques. Et tous rappellent qu'au début de son mandat, Anne Hidalgo était opposée à la création d'une police municipale à Paris. On termine ce journal avec le temps. Demain, pluvieux sur une large moitié nord, nuageux au sud. Le vent soufflera en rafale près de la Manche et sous les orages. Température minimale de 9 à 17 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 14 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.